Cet épisode des rameaux où Jésus entre à Jérusalem fêté comme un roi avec les gens qui agitent des palmes en criant Hosanna est bien connu, mais à mon esprit, il est curieux. Il est curieux d'abord parce que j'ai toujours été étonné de cette foule entière que l'on nous décrit comme si tout Jérusalem reconnaissait Jésus comme roi, et voici que peu de temps après, tout le monde le crucifie et qu'il se retrouve tout seul. Donc où étaient passés tous ces gens qui étaient venus le proclamer comme roi? Ensuite, j'ai du mal à comprendre aussi pourquoi ces histoires d'ânes, de rameaux, de branches qu'on agite. Et puis ce cri aussi très étonnant, Hosanna, que veut-il dire? Quand on demande aux gens ce que veut dire Hosanna, la plupart des gens disent ça doit vouloir dire quelque chose comme gloire à toi, louange à toi. Eh bien non, pas du tout. Hosanna ne veut pas dire gloire à toi, ce n'est pas un cri de louange, c'est tout à fait autre chose. Et je vais vous expliquer un peu ce qu'il en est, c'est-à-dire que pour comprendre, je crois, la fête des rameaux, il faut comprendre que comme beaucoup d'autres fêtes chrétiennes, les rameaux ne sont pas une invention des chrétiens, mais c'est une fête juive. Et donc ce qui se passe ce jour-là à Jérusalem, c'est quelque chose qui est, je dirais, qui doit être compris à partir de la fête juive des rameaux. Et je vais vous expliquer. Les Juifs, en effet, avaient une fête où ils faisaient des processions entre Jérusalem, entre le Temple et le Mont des Oliviers. Et là, donc, ils faisaient des grands mouvements de foule. Et pendant ce temps-là, ils agitaient des rameaux, avec ou sans Jésus. Enfin, ils agitaient des rameaux, ça se faisait. Et ils criaient « Hosanna au fils de David ». Autrement dit, il y avait toute cette agitation avait déjà lieu avec ou sans Jésus, et c'est dans ce mouvement de foule que Jésus vient s'incorporer. Il n'est donc pas évident que toute cette foule ait été là pour lui, mais donc elle y était déjà, en quelque sorte. Et plus précisément, quelle est cette fête? Eh bien, cette fête, c'est le septième jour de la fête des huttes, la fête des cabanes, ou la fête de Soukhot, comme disent nos frères juifs. Et donc, le septième jour de la fête des cabanes s'appelait le jour du grand Hosanna. On en trouve l'institution dans le Lévitique, au chapitre 23, verset 40, où le Lévitique dit « Ce jour-là, vous vous munirez de rameaux, de branchages, et vous serez dans une joie extraordinaire, etc. » À l'origine, écoutez bien, à l'origine, c'était une fête d'appel de la pluie, une sorte de fête agricole, comme qui est l'origine de la plupart des fêtes juives. Et donc au début, on faisait des sortes de danses de pluie pour essayer de demander que Dieu envoie l'eau qui permettra à la végétation de pousser. Donc c'était un appel de l'eau. Et à ce moment-là, les prêtres, ils ont continué à le faire, tournaient, je vous ai dit, autour du temple de Jérusalem, et ils faisaient sept fois le tour de l'autel du temple avec des branches de saule. Et puis les gens agitaient des branches d'arbres, et ces branches de rameaux, ce n'était pas du buis, c'était des branches de saule ou de palmier, bref, des arbres qui demandent beaucoup d'eau pour pousser. Et donc ils agitaient ces branches d'arbres demandant beaucoup d'eau pour dire « Tu vois Seigneur, il nous faut de l'eau ». Alors tout ça, évidemment, ça fait un peu fête païenne, je l'avoue, mais elle a été évidemment très rapidement spiritualisée, en disant qu'évidemment, on ne va pas faire des danses de la pluie comme les Indiens dans Lucky Luke, si vous voulez, mais il s'agit de demander que Dieu nous envoie l'eau vive. Et ce thème de l'eau, l'eau spirituelle, l'eau qui nous permet de sortir du dessèchement de notre cœur, qui permet de rendre fécond même le désert le plus aride, c'est l'eau de la source qui donne la vie aux voyageurs, c'est une eau bienfaisante, et on dit, voilà, c'est Dieu lui-même qui est la source d'eau vive. Et c'est ce même symbole de l'eau que nous utilisons au moment du baptême pour dire cet enfant, il est au bénéfice de Dieu qui est pour lui une source d'eau, parce que la source de l'eau, c'est la source de la vie. Et puis c'est devenu plus tard une fête d'appel de la venue du Messie. Et donc c'était une fête où on demandait à Dieu d'envoyer son Messie. Vous voyez donc, c'est une fête extrêmement importante. Et on demandait la venue de l'eau vive, et ils demandaient la venue du Messie. Et c'est dans ce dispositif que Jésus arrive. Autrement dit, les gens n'étaient pas du tout réunis pour acclamer Jésus. Ils étaient tous réunis en disant « Seigneur, envoie-nous ton Messie, que le roi vienne, Hosanna au fils de David ». Ils agitaient les palmes et Jésus arrive là-dedans et peut-être que certains autour de lui l'acclamaient ou peut-être que certains des disciples ont dit « Ben voilà, ce que l'on appelle et ce que l'on demande, c'est lui qui le donne ». Mais il n'est pas du tout certain, en tout cas, que tout Jérusalem acclamait Jésus. Certainement pas, probablement pas même d'ailleurs. Mais en tout cas, le fait que certains disciples, peut-être une poignée, aient dit « Ben voilà, c'est celui que nous attendons, c'est lui, c'est Jésus ». Ça nous apprend beaucoup de choses sur Jésus lui-même. D'abord, qu'il est la source de l'eau vive. Cela, nous le savons, et je ne le développerai pas. On en retrouve la même idée, d'ailleurs, dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, où il est fait également référence à cette fête, le septième jour de la fête de Soukhot, le jour du grand Hosanna, où il est écrit « Le dernier jour, le grand jour de la fête, donc de la fête des tentes, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein, comme dit l'Écriture. » Donc vous voyez, on est bien en totale cohérence avec ce qui se passe. Maintenant, dire que Jésus est le Messie attendu, qu'il est le roi, ça, c'est assez simple, mais pardon pour ceux qui le savent par cœur, il faut que je vous fais un petit rappel pour les débutants. Dire que Jésus est Messie, ça veut dire une chose importante, parce que Messie, c'est un mot hébreu qui a été traduit en grec par le mot Christ, donc Messie et Christ, ça veut dire la même chose. Ça veut dire celui qui est oint, c'est-à-dire celui qui a reçu de l'huile sacrée sur lui. Et donc, dans l'Ancien Testament, était Messie, donc ou Christ ou oint, suivant que vous prenez le mot hébreu, Messie, grec, Christ ou français, oint, trois catégories de personnes. C'était les rois, les prêtres et les prophètes. Les rois étaient oint d'huile sacrée, l'huile représentait la présence de Dieu. Et on les recouvrait d'huile sainte pour dire « Ce gars-là, il peut régner sur nous, revêtu de l'autorité de Dieu. » Voilà. Les prophètes, c'est la même chose, on leur versait de l'huile sainte sur la tête pour dire « Celui-là, il peut nous parler au nom de Dieu. Il est revêtu aussi de la présence de Dieu et il parle comme Dieu. » Et le prêtre, c'était aussi celui qui, revêtu de l'autorité divine, avait le droit de gérer les relations entre Dieu et l'homme, a priori, comme on peut supposer que Dieu le voulait. Et donc dire, voilà, c'est Jésus qui est notre Messie, ça veut dire que Jésus est pour nous roi, qu'il est prêtre et qu'il est prophète. C'est la triple couronne du Christ. Jésus est notre roi, c'est-à-dire qu'il est celui en qui je veux obéir, et il est celui qui me protège, il est mon maître, il est mon Seigneur. C'est ça que nous disons au moment des rameaux, si nous voulons embrayer cette foule et dire « Jésus, il est notre Messie ». On dit qu'il est prophète, c'est-à-dire qu'il est celui qui nous donne la parole de Dieu. Et il est même plus que ça, il est l'incarnation de cette parole. Donc Jésus est bien le porte-parole de Dieu, il est même la parole même de Dieu. Et puis il est prêtre, parce que selon l'Épître aux Hébreux, Jésus est notre seul intermédiaire entre Dieu et l'homme. Jésus est celui qui nous met en contact, en relation avec Dieu. Donc Jésus, c'est une profession de foi. Si je dis Jésus est Christ, ça veut dire pour moi Jésus est mon roi, pour moi Jésus est mon prophète, et pour moi Jésus est mon prêtre. C'est une affirmation de foi importante. Et ça n'est pas tout, parce que Jésus n'est pas un Messie parmi d'autres, il est le Messie. Et là, c'est encore autre chose, parce qu'il y avait dans le judaïsme une attente particulière qu'un jour, Dieu enverrait un nouveau roi qui viendrait rétablir la grandeur d'Israël et qui viendrait accomplir pour le peuple toutes les promesses de Dieu, donc qui amènerait tout à son accomplissement. Et donc, les Juifs attendaient le Messie qui viendrait faire tout cela. Et la fête des rameaux, c'était la fête, on disait à Dieu, envoie-nous ton Messie. Et les disciples disent, où Jésus fait dire « Je suis celui que vous attendez ». Et donc cela veut dire que Jésus est celui qui vient pour nous donner toutes les promesses de Dieu, qu'il vient nous donner la paix, qu'il vient nous donner l'espérance, qu'il vient nous donner le pardon, qu'il vient nous donner la liberté, qu'il vient nous donner la vie éternelle et la capacité d'être réconcilié avec Dieu, en totale communion avec lui. C'est beau ça, n'est-ce pas? Et puis du coup, pendant ce temps-là, eh bien, la foule, disions-nous, criait « Hosanna ». J'aime ce cri de gloire qui est le nom que portait mon chat. Parce que j'ai un chat qui est venu chez moi le jour des rameaux et je l'ai appelé Hosanna, évidemment. Et Hosanna m'a accompagné longtemps et donc j'ai une tendresse particulière pour ce mot-là. Et c'est à cause de mon chat que j'ai cherché ce que voulait dire Hosanna. Et j'ai trouvé. Hosanna ne veut absolument pas dire gloire à Dieu. Hosanna, c'est un mot hébreu, encore un, qui est une citation du psaume 118 au verset 25. Au psaume 118, verset 25, il est écrit « Anna Yahweh Hoshiana, Anna Yahweh Hatsiana ». Et Hoshiana, en hébreu, ça a été translittéré par Hosanna. Et Hoshiana, en hébreu, ça veut dire « sauve donc ». Donc autrement dit, Hosanna, ça ne veut pas dire « gloire à Dieu », ça veut dire « sauve-nous ». Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi, Seigneur. C'est ça que veut dire Hosanna. Hosanna, c'est cet appel du psaume 118 qui est traduit en français par « de grâce éternelle, sauve donc ». De grâce éternelle, délivre donc. Donc Hosanna, c'est un appel à nous sauver. Et ça m'intéresse parce que, je vous ai dit, dans les rameaux, il y a une confession de foi. Je reconnais que Jésus, il est la source d'eau vive, qu'il est mon roi, mon prêtre, mon prophète. Je reconnais qu'il est celui qui peut me donner tous les dons de Dieu. Ça, c'est une confession de foi. Et en confessant ma foi, je dis, Seigneur, sauve-moi, c'est-à-dire que j'attends de lui quelque chose. J'attends de lui quelque chose et je confesse ma foi et il est pour moi quelqu'un qui peut me donner quelque chose d'important. Et qu'est-ce que Jésus peut me donner? Eh bien oui, il peut me sauver, voilà, il peut me sauver. Et là je suis un peu coincé parce que la question du salut a préoccupé beaucoup les gens au Moyen-Âge. Aujourd'hui, si vous fréquentez un homme de la rue et vous lui dites « voilà, Jésus te sauve », il dira « je ne vois pas trop de quoi il me sauve ». La question du salut ne préoccupe plus nos contemporains, à moins d'avoir été élevés dans l'Église depuis leur plus tendre enfance. Alors il faut décortiquer ça. Dans l'Ancien Testament, on disait que Dieu sauvait et a sauvé de la sortie d'Égypte. Voilà. Bon. Alors, si je l'interprète pour aujourd'hui, je dirais oui. Je crois que Dieu nous sauve, c'est-à-dire qu'il nous libère. Et je crois ça. Je demande au Christ et que ma foi puisse me donner de la liberté, me libérer de toutes les chaînes, je dirais, qui m'enferment dans ce monde, tout ce qui me broie, tout ce qui m'écrase, tout ce qui me réduit à rien, avoir l'impression d'être enfermé dans une cellule grise et noire. Et Dieu me sauve, il me libère. Il me libère de l'esclavage, il me libère de toutes ces contraintes effroyables du monde matériel, du monde du travail, du monde économique, du monde politique. Il me libère. Et c'est ça la présence de Dieu dans une vie. C'est la porte de la prison qui s'ouvre sur le ciel bleu et on dit « tu es libre ». Ça c'est extraordinaire. Donc oui, je demande à Dieu de me libérer, de me donner cette joie je dirais de légèreté, d'indépendance, d'autonomie à laquelle j'aspire. Et ça, c'est ce que dit aussi Jésus dans ce même évangile de Jean, quand il dit « Je vous dis la vérité et ma vérité vous rendra libre ». Donc oui, la religion, c'est pas de mettre un carcan de plus et de dire « Vous étiez esclave de ceci, de cela, venez chez moi, vous serez esclave d'autre chose ». C'est vraiment de libérer. Et moi, je tiens à ce que cette parole de l'Évangile soit une parole de liberté. Et donc, je n'ai pas d'idée que la prédication chrétienne doive dire aux gens « Vous devriez faire ça et vous ne devez pas faire ceci, et si vous faites cela, vous êtes mauvais, et si vous faites cela, vous êtes coupable. » Ce n'est pas une parole qui libère, ça. Libérer. Combien de personnes je vois qui, devant un pasteur, se sentent angoissées? Il faut dire que représente l'autorité avec le bel habit, avec le rabat qui représente, dit-on, les tables de la loi, une sorte de jugement, et qui disent « Oh, monsieur le pasteur, vous savez, moi je ne suis pas un bon paroissien, je ne suis pas un bon pratiquant. » Je dis « Mais moi je n'en sais rien, l'évangile n'est pas là pour juger qui que ce soit, vous êtes libre. » Et en tout cas, en tant que prédicateur d'évangile, je n'ai pas d'idée a priori sur ce que doit être la vie spirituelle de chacun, ou sa façon de vivre sa fidélité à l'Évangile. Nous sommes libérés. Ensuite, dans l'Ancien Testament, ce Dieu sauveur était aussi celui qui sauvait de la défaite politique, bien sûr. Il permettait de gagner les batailles à la guerre. C'est effroyable d'ailleurs, c'est grâce à cela que le christianisme a survécu par cet empereur romain qui a dit à sa femme, qui était chrétienne, avant une bataille un peu hasardeuse, elle dit « Si je gagne cette bataille, je me fais chrétien. » Madame prie Dieu, il gagne la bataille, il se fait chrétien. Quelle horreur! Le christianisme est fondé sur de l'idolâtrie et sur une foi totalement superstitieuse. Mais les voies de Dieu sont impénétrables. En tout cas, dans l'Ancien Testament, c'est ça, Dieu nous sauve de la défaite. Alors, je le réinterprète en disant que je ne crois pas que Dieu fasse gagner les guerres, mais qu'en tout cas, oui, il nous sauve de nos défaites, c'est-à-dire de nos échecs, de nos erreurs. Parce que là aussi, il y a quelque chose qui, je dirais, qui nous touche et qui nous blesse. Ce sont tout ce que nous avons raté. Toutes les fois, nous avons été vaincus. J'ai essayé et j'ai échoué. C'est effroyable, ce poids de nos échecs, et je crois que c'est l'expérience la plus universelle de l'homme, de se souvenir de tout ce qu'il n'a pas réussi, de tout ce qu'il a raté, de tout ce qu'il a manqué. La culpabilité terrible qui est mortifère, eh bien Dieu nous libère de cela. Il dit non, tu es libre, et il coupe le boulet du prisonnier, et il nous libère de toutes les casseroles que nous traînons derrière nous, et lui dit, tu es libre, et je te regarde moi comme vainqueur. Donc oui, en Christ, dit l'Écriture, nous sommes plus que vainqueurs. Il nous libère de l'erreur, de l'échec et de la culpabilité. Il nous libère, oui, c'est ça aussi, quand on dit que Jésus-Christ nous libère du péché, c'est pas qu'il fasse que nous ne le soyons plus, mais il nous libère de la peine que mériterait notre péché, de la culpabilité même. Oh, je pourrais continuer, il nous libère de la sécheresse en nous donnant l'eau, ça je vous l'ai dit, le Messie est l'eau vive, c'est-à-dire que notre vie aussi est menacée par le dessèchement, par l'aridité, par à un moment donné le repli sur soi comme une plante qui manque d'eau, qui se racornit et qui ne donne plus de fruits ni de fleurs, eh bien, la présence de Dieu devient comme l'eau sur cette fleur en train de dépérir, qui rouvre ses fleurs, qui donne des fruits et qui s'épanouit. Et donc oui, il est celui qui nous sauve de la sécheresse. Si on veut être plus contemporain et surfer, comme on dit, sur les mouvements intellectuels de la fin du XXe siècle, on pourrait dire que Dieu nous sauve de l'absurde. Il nous sauve de l'absurdité de notre vie. Notre vie est une absurdité d'un point de vue purement matérialiste. C'est quoi ce monde? Ces molécules qui s'agitent, qui forment des bactéries et qui s'assemblent d'une façon curieuse pour donner l'être que vous êtes, qui serait un être totalement issu du hasard et de la nécessité. Quel est le sens de votre vie et à quoi servirait-il dans ce cas que votre vie puisse être souffrance, deuil et misère? Je dirais, quel est le sens de tout ça? Où est-ce que tout cela mène? Et j'avoue que s'il n'y avait pas un Dieu quelque part, et s'il n'y avait pas une transcendance qui me dise « Mais attendez, ce monde matériel, votre vie matérielle n'est que l'ombre d'un monde d'autre chose, et il y a un sens possible dans ce monde, parce que ce qui est important dans le monde, c'est l'amour qui est partagé, c'est la relation à l'autre, c'est la bonté, la générosité, la gentillesse, et c'est la grâce. » Et si je ne croyais pas là-dedans, je ne sais pas si je ne pense pas que je vous dirais finalement, un monde purement minéral vaudrait mieux que ce monde humain où il y a tant de souffrances. Voilà. Et donc Dieu me sauve de l'absurdité de la vie, de l'absurdité de ma propre vie et de l'absurdité du monde. Parce que ce Dieu nous dit, ta vie peut avoir un sens et tu peux vivre. Et ce monde lui-même a un sens parce qu'au-delà de la misère, il y a de la beauté, de la gentillesse, de l'amour, de la grandeur, de la grâce dans ce monde. Et ça, ça justifie l'ensemble du monde. Et dans votre vie, les quelques parcelles, éléments, étincelles de grâce et d'amour que vous partagez un jour ou l'autre avec l'un ou l'autre, donnent sens à toute votre vie. Et donc oui, Dieu nous sauve de l'absurde et du non-sens. Pour les jeunes, je dirais aussi que Dieu nous sauve de la peur, il nous sauve de la crainte, parce qu'il nous donne confiance, il remplit notre cœur d'espérance. Et puis surtout, bien sûr, et j'aurais dû commencer par là, Dieu nous sauve de la mort, parce qu'il nous sauve, il nous dit que notre vie est appelée à l'éternité, et donc il nous sauve au moins de la peur de la mort, il nous donne confiance. Donc oui, certainement, ce Dieu est notre salut, il est notre rocher, notre forteresse, il est cette éternité même, cet absolu auquel j'accroche ma vie et sans lequel ma vie ne serait qu'un fétu de paille sur l'océan emporté je ne sais où. Sans Dieu, ma vie pourrait fiche le camp dans n'importe quel sens, mais là, j'ai en Dieu une ferme assurance, j'ai en lui un roc, une forteresse, j'ai en lui un point d'appui, quelque chose qui demeure au-delà de tout, qui est au-delà de tout le passager et qui est la seule chose qui compte. C'est cette éternité de Dieu, c'est la planche de salut sans laquelle je m'enfoncerais dans la mer, c'est la planche de salut sans laquelle ma vie se dissoudrait dans le conditionné et dans l'aléatoire, dans le vide et dans le non-sens. Et donc oui, certainement, Jésus est appelé Jésus, parce que Jésus, ça veut dire « Dieu sauve ». C'est la même racine, « Yeshua » que « Hoshana », c'est le même verbe. Jésus est celui qui sauve, il est celui qui nous donne le salut de Dieu. Et donc voilà cet appel, « Hosanna, de grâce Seigneur, sauve-nous ». Comme Pierre, quand il marche sur l'eau et il a confiance et Jésus lui dit « Tu peux y arriver Pierre, allez viens vers moi » et Pierre marche et il arrive à traverser quelque chose d'intraversable. Et voilà que Pierre prend peur et qu'il s'enfonce. Parce que oui, bien sûr, je le dis aussi, gardez courage, gardez confiance, avancez, ayez la foi, toujours en route. Et parfois nous-mêmes, comme Pierre, nous décourageons et nous n'y arrivons pas. Et nous disons, comme Pierre, « Seigneur, sauve-moi !» C'est ça, « Hosanna, Seigneur, sauve-moi !» Hosanna, ce n'est pas un cri de louange. C'est justement ce cri de Pierre qui s'enfonce dans l'eau et qui dit « Seigneur, sauve-moi !» Et de dire « Jésus, viens !» Il lui tend la main et il le relève. « Sauve-moi, Seigneur !»« Sauve-moi, fils de David !»« Sauve-moi parce que Jésus est le roi, celui qui peut m'ouvrir la porte et à la suite duquel je peux avancer. » Et en même temps, il est ce Messie, ce roi, ce Messie qui vient sur un âne. Un âne, ce n'est pas un cheval de guerre. Les rois au Moyen-Orient se promenaient sur les ânes, mais seulement quand ils faisaient des actions pacifiques, sinon ils montaient sur un cheval de guerre. Et donc Jésus sur un âne, ça veut dire « je suis roi », mais c'est un roi de paix. Quant à Jésus, il sera sauvé lui aussi. Mais de quelle manière? Parce que là, il y a encore une complication. Je terminerai là-dessus, pardon. C'est que ce « Hosanna, ô fils de David ». C'est pareil, moi j'ai l'esprit mal tourné. Donc quand je vois une formule, je me dis « mais ça veut dire quoi ça ?»« Hosanna, ô fils de David ». Si c'est « Hosanna, fils de David », c'est-à-dire « sauve-moi, fils de David », mais « Hosanna, ô fils de David ». Je prends mon Nouveau Testament en grec et je vois qu'il y a un datif. Le datif, ça veut dire « Hosanna, pour toi, fils de David ». Donc ça veut dire « toi, fils de David, sauve-toi ». C'est-à-dire que c'est Jésus qui doit se sauver avant nous. Ça, c'est intéressant. Et je cherche encore dans mes vieux grimoires talmudiques et je vois que les Juifs, dans la fête des rameaux, criaient « toi », il dit « criaient à Dieu, toi et moi, sauve donc. Il disait Ani vahu oshiana, moi et toi sauve donc. C'est-à-dire qu'on demande à Dieu de nous sauver et aussi à Dieu de se sauver lui-même. Parce qu'en effet, c'est la manière avec laquelle Jésus va être sauvé qui nous indique la façon avec laquelle Dieu nous sauve. Et Jésus ne va pas être sauvé matériellement parce que des légions d'anges vont le libérer de la croix. Ça, c'est ce que disaient les soldats. « Sauve-toi toi-même !» Tiens, encore le Hosanna, quand il était sur la croix. « Descends de la croix et nous croirons en toi. » Jésus ne descend pas de la croix. Et donc ce salut dans lequel nous croyons au moment des rameaux, ça n'est pas justement une sorte de croyance un peu superstitieuse que Dieu nous fera gagner la guerre, qui nous arrangera nos maladies, qui fera tout que tout se passe bien matériellement. C'est justement que malgré la croix, malgré le fait que Jésus meurt, et oui mes enfants, Jésus meurt sur la croix, il n'échappe pas à la croix. Dieu ne nous fait pas échapper, je dirais, aux problèmes matériels de notre vie, mais derrière cette croix, il y a la résurrection, il y a la vie. Et on voit que Jésus a une vie qui traverse la mort et qu'aujourd'hui encore nous disons qu'il est vivant. Donc Dieu a sauvé Jésus-Christ et il l'a sauvé spirituellement comme il nous sauve spirituellement. Et ainsi donc, nous pouvons être sauvés parce que nous savons que Dieu a sauvé Jésus, il l'a sauvé en douceur, dirais-je. Alors n'ayez pas peur, Dieu a sauvé Jésus-Christ, il lui a donné la vie et il nous sauve aussi. Et ce Jésus, il est notre roi, mais il est roi de paix, il est le maître de la vie, il est le champion de l'espérance, et il est l'amour donné sans condition, par grâce, amour éternel qui nous fait vivre. Oui, ô notre Dieu, sauve le Christ en nous, sauve notre Dieu, sauve notre foi, car c'est par cela que nous pourrons vivre. Fais vivre dans ce monde ce Dieu qui en a tant besoin, cette espérance qui peut lui donner sens, sauve-toi toi-même en nous et sauve-nous. Hosanna.